BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus, Yann Anthony Noguès.
Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce numéro spécial de 500 millions d'Européens. Alors pourquoi est-il spécial? Eh bien parce que nous nous sommes rendus en principauté de Monaco cette semaine en compagnie de Pierre Moscovici, le commissaire européen en charge des affaires économiques, a paraphé un accord sur la transparence fiscale avec les autorités monégasques. Alors Pierre Moscovici, il avait déjà signé ce type d'accord avec le Liechtenstein, avec San Marin, avec Andorre, mais Jean Quatremer n'avait pas fait le déplacement. En revanche, il est venu à Monaco. Bonjour Jean Quatremer.
Bonjour Yann.
Correspondant de Libération ici à Bruxelles, bientôt envoyé spécial permanent de Libération à Monaco.
C'est le but de ma vie. Voilà, j'essaye de persuader ma direction de créer un poste de correspondant permanent à Monaco, éventuellement à Nice, je pourrais accepter. Alors, Monaco serait bien.
C'est un pays que je connais bien, c'est un pays que vous découvrez. Pourquoi est-ce intéressant de parler de Monaco aujourd'hui?
Écoutez,
ce petit peuple d'irréductibles, 8000 monégasques au milieu de 500 millions d'Européens.
Mais je trouve que c'est intéressant parce que quand on arrive à Monaco, on pense à quoi? Point de vue image du monde, à Closer, on pense prince, princesse, des scandales, des histoires. Et puis en fait, on découvre que derrière ça, ben il y a une vraie économie, il y a des gens, on produit des biens, il y a de la recherche. C'est petit à petit une économie qui se transforme. C'est une économie effectivement qui s'est beaucoup bâtie sur le jeu, sur le secret bancaire. Maintenant, ils sont passés à autre chose. Et donc, c'est cette découverte. C'est quand on va sur place, on découvre quelque chose qui ne ressemble pas du tout à l'image d'Épinal relativement désastreuse qu'on a. Et donc c'est intéressant d'y aller, c'est intéressant d'en parler.
Bonjour Andreas Schwab. Bonjour. Vous êtes eurodéputé PPE, c'est CDU, votre famille politique en Allemagne. Vous êtes allemand, vous êtes un spécialiste du marché unique. Or, ces micro-États au beau milieu de l'Europe, donc on parle d'Andorre, Saint-Marin, Liechtenstein, Monaco, ils ne font pas partie du marché unique. Il y a quelques mois, vous avez rédigé, c'était en septembre 2015, une résolution dans laquelle vous vous félicitiez, alors j'ai sous les yeux, au sujet d'Andorre, Monaco et Saint-Marin, je vous cite, de l'ouverture des négociations en vue d'accords d'association comme une étape importante eu égard à leur participation au marché unique et éventuellement au-delà, tout en tenant compte des particularités de ces pays. Alors ces pays ont vocation, selon vous, à rejoindre le marché intérieur et même éventuellement à rejoindre l'Union européenne?
Bien sûr, la globalisation fait que l'Europe doit coopérer plus fortement et on ne peut pas oublier les petits États. Et le Monaco fait partie de ceux qui veulent s'engager plus et c'est positif.
Alors je retiens une notion importante dans votre résolution, le fait de tenir compte des spécificités de ces petits pays. On va y revenir. Bonjour Claude Martin, vous êtes du Service européen d'action extérieure, le SEAE. En gros, c'est la diplomatie européenne. Donc Bruxelles et Monaco ont entamé des négociations en vue d'un accord d'association et vous êtes le négociateur côté européen. Juste en termes de définition, pour bien démarrer cette émission, c'est quoi un accord d'association?
Alors un accord d'association avec Monaco, Andorre et Saint-Marin, ça veut dire effectivement que suite à des travaux d'analyse qui ont commencé en 2011 avec les différentes options possibles pour déterminer le type d'accord qui permettrait de nous rapprocher davantage et eux de se rapprocher davantage de l'Union européenne, on a examiné les différentes possibilités et celle qui est retenue effectivement, c'est un accord d'association qui étendrait à ces trois pays le marché unique de l'Union européenne.
D'accord.
Et également d'inclure d'autres politiques associées et également, selon le souhait des partis et finalement, d'autres politiques pour lesquelles nous pourrions avoir un intérêt commun.
En tout cas, c'est la négociation des extrêmes. D'un côté de la table, l'Union européenne, c'est la plus grande puissance commerciale au monde, peuplée de 500 millions d'Européens. Ça, on finira par le comprendre vu le titre de cette émission, le nom de cette émission.
Bientôt moins.
Peut-être 440 millions d'Européens si le Brexit a lieu. Effectivement, on le saura le 23 juin après ce référendum au Royaume-Uni. En tout cas, 500 millions d'Européens. Pour l'instant, l'Union européenne, c'est en gros 5 millions de kilomètres carrés. Puis de l'autre côté, on a un petit rocher au bord de la Méditerranée de 2 kilomètres carrés sur lequel vivent 37 000 personnes, dont à peine 8 000 nationaux, 8 000 vrais monégasques. Voilà, Monaco, Et 8000 Ferrari, chacun sa Ferrari.
Chacun sa Ferrari.
Voilà, c'est un droit là-bas, en principauté de Monaco. Ce qu'il faudrait, pour éviter d'avoir un nivellement par le bas, faudrait plutôt dans ces négociations que ce soit une Ferrari pour tout le monde en Europe.
Mais la Commission européenne y pense. La Commission européenne y pense. Elle veut réorienter la politique agricole commune vers justement la production automobile et la Ferrari
là,
pour
y a,
tous.
Il y a Claude Martel qui est en train de se dire où ai-je mis les pieds. Monaco et l'Europe, la négociation des extrêmes. Voici le programme de 500 millions d'Européens pour réagir sur Twitter, hashtag 500ME. Donc cette semaine, Pierre Moscovici, le commissaire européen en charge des affaires économiques, et Jean Castellini, le conseiller de gouvernement monégasque pour les finances et l'économie, ont paraphé un accord sur l'échange automatique des données fiscales entre Monaco et l'Union européenne. Alors jusqu'ici, en fait, les banques monégasques répondaient à des demandes de commissions rogatoires internationales pour donner des informations sur les détenteurs de comptes. Mais à partir de 2018, la principauté enverra chaque année de manière automatique à chacun des 28 pays de l'Union européenne des informations, toutes les informations sur les comptes que leurs ressortissants possèdent à Monaco. Un grand pas vers la transparence fiscale, selon Pierre Moscovici, que nous avons interrogé avec Gabriel Moulan.
C'est une avancée très importante parce que c'est en quelque sorte le dernier trou dans la raquette européenne par rapport aux accords qui permettent d'évacuer de notre paysage politique et économique le secret bancaire. Nous avons signé des accords comparables déjà avec la Suisse, avec le Liechtenstein, avec Andorre, avec San Marin. Avec le parapluie de cet accord et demain sa signature, s'en sera fini du secret bancaire, non seulement dans l'Union européenne, mais dans toute l'Europe.
Voilà, Pierre Moscovici, le commissaire européen qui s'essaie au tennis, le smasher, il monte au filet, le dernier trou dans la raquette européenne. Bon, soit, c'est une image intéressante. En tout cas, bientôt la fin du secret bancaire dans toute l'Europe. Et pour les autorités monégasques, ce qui compte beaucoup grâce à cet accord, c'est d'enfin pouvoir sortir des listes noires, des listes grises de certains pays européens. Et là, on écoute Jean Castellini, l'équivalent du ministre des Finances monégasque.
C'est un accord qui, pour des raisons, je pense, de pure logique, devrait en effet nous permettre de sortir des listes discriminatoires qui ont été édictées par certains des États membres. Aujourd'hui, la principauté ne figure même pas sur une dizaine de listes, donc le nombre d'États est assez réduit. Et souvent, nous y figurons du simple fait que nous n'avons pas signé d'accord d'échange d'informations avec ces pays. Donc, je pense que lorsque l'accord que nous avons paraphé aujourd'hui sera signé et rentrera en vigueur, il n'y aura plus d'obstacle à ce que nous sortions des listes de ces pays.
Jean Castellini, conseiller de gouvernement monégasque pour l'économie et les finances. En clair, Jean, quand on l'écoute, l'objectif de Monaco, c'est de sortir du cliché de paradis fiscal.
Oui, je crois que c'est le but. Et d'ailleurs, c'est pas le seul pays qui essaye de sortir de ce cliché. Le Luxembourg, par exemple, ça fait 20 ans en réalité que Luxembourg, petit à petit, a transformé son économie en économie de secret bancaire, on va dire, où elle fait une industrie presque secret bancaire pour créer une croissance endogène. D'ailleurs, ils ont employé un mot, un néologisme que j'ai adoré. Ils ont parlé au lieu de offshoreisation, c'est onshoreisation de l'économie économie monégasque.
Ça a dû émouvoir le défenseur de la langue française que vous êtes.
Voilà, oui, absolument. Bien sûr. Mais c'est vrai que là, le offshore n'existe un mot qui n'existe pas en français.
Andréa Schwab.
C'est vrai, mais c'est une bonne chose pour l'Union européenne, pour les citoyens du Monaco et pour le marché intérieur, car en fait, avec cette entrée en vigueur de cet accord, le Monaco et les services bancaires, les autres services de Monaco peuvent participer à 100% dans ce marché unique, et ça va en quelque sorte leur donner une chance de devenir plus grands s'ils sont compétitifs. Et il n'y a aucune question, il ne faut pas se douter, probablement il y a des services compétitifs et c'est positif.
Ils ont une connaissance des services bancaires que n'ont pas les autres, et donc c'est clair qu'ils vont pouvoir vendre des services dans tout le marché unique.
Il faut tenir les règles.
Quand je vous écoute, Andréa Schwab, ça me fait penser au fait que Monaco, en fait, en italien, c'est Munich. C'est pour ça notamment que... mais c'est Monaco di Baviera, et c'est pour ça que les Italiens appellent Monaco, essentiellement Monte Carlo. Claude Martin, pour vous, c'est important de signer ce type d'accord qui, en fait, font suite aux accords dans le cadre de l'OCDE et du G20.
Tout à fait. C'est une des pièces du puzzle qu'on est en train de construire avec Monaco, et c'est une pièce essentielle parce que, effectivement, si aujourd'hui on peut imaginer qu'il y a encore un secret bancaire dans ce pays, comme vous dites, qui ira investir, qui est prêt à aller faire des affaires avec avec Monaco, en sachant effectivement que ça peut être entaché d'irrégularité. Donc c'est un phénomène. Ce sont des accords qui ont été négociés avec avec tous les pays sur les règles de l'OCDE. Et il est évidemment essentiel pour l'avenir de Monaco d'en faire partie.
Voilà. Donc Monaco et l'Union européenne ont entamé des négociations pour un accord d'association. Nous avons rencontré cette semaine à Monaco le nouveau ministre d'État monégasque. C'est le chef de gouvernement. Il est de nationalité française. Son nom, Serge Tel. Et voici en quelque sorte son mandat.
Nous n'étions pas demandeurs. C'est l'Union européenne, sur la base du traité de Lisbonne, qui nous demande de rentrer dans cette négociation. On y va. On y va les yeux ouverts. Il n'y aura pas de compromission sur les choses importantes pour Monaco, c'est-à-dire le droit d'établissement, etc. Les Monégasques continueront à vivre normalement à Monaco, et Monaco, normalement, devrait en tirer des avantages. Si on n'a pas satisfaction sur nos demandes, il n'y aura pas d'accord.
Et boum, si on n'a pas satisfaction sur nos demandes, il n'y aura pas d'accord, nous dit Serge Tel, le ministre d'État monégasque. Claude Martin, vous êtes le négociateur européen, c'est clair.
Bon, je voudrais dire que c'est vrai que Monaco, dans la négociation en tout cas, a exprimé des intérêts essentiels dans cette négociation. Il y a pour eux aujourd'hui les accords existants, la convention douanière entre Monaco et la France leur donne déjà un accès au territoire européen. Mais comme on le sait aujourd'hui, l'union douanière, les droits de douane, c'est pas suffisant. Il y a toute la réglementation technique qui fait effectivement qu'un marché unique fonctionne ou pas. Et aujourd'hui, des produits peuvent passer la douane, mais ils passent pas forcément les réglementations techniques. Et donc c'est pour ça que l'accès à la réglementation européenne en matière de normes, en matière sanitaire, phytosanitaire, pour les services, pour les évidemment la libre circulation des personnes, les quatre libertés, c'est vraiment essentiel, et c'est pour Monaco des éléments qui permettront à leur vision économique du futur de se développer. C'est un outil de transformation de l'économie.
Voilà, un outil de transformation de l'économie à travers un rapprochement avec l'Union européenne. On poursuit cette discussion sur Monaco et les Européens avec Claude Martin, André Achfab et Jean Quatremer. À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, depuis le Parlement européen à Bruxelles.
Merci de nous rejoindre ici au Parlement européen à Bruxelles. Nous parlons dans ce numéro de 500 millions d'Européens des relations entre Monaco et les Européens. Monaco, c'est un État souverain au milieu de l'Europe, dans la zone euro, mais pas dans l'Union européenne. Et Bruxelles souhaite clarifier les relations avec l'ensemble des micro-États qui évoluent un peu trop librement à son goût, en son sein, tandis que les autorités monégasques aimeraient disposer d'un meilleur accès au marché intérieur. Jean Quatremer dit non. Qu'est-ce qu'il y a, Jean Quatremer?
Monaco n'est pas dans la zone euro.
Monaco, à travers la France, bénéficie et utilise la monnaie unique, l'euro, parce que Monaco dépend de la Banque de France.
En revanche, ils ont le droit d'avoir des pièces à l'effigie du prince. Ça, oui, effectivement. Pièces sont très rares.
Vous en avez ramené une?
Non, j'ai effectivement, à chaque émission, j'achète les brillants universels, ça s'appelle, parce que ça prend énormément de valeur.
C'est intéressant.
Je spécule.
Jean, en gros, met le doigt sur un point intéressant, André Achfab. Je rappelle que vous êtes eurodéputé CDU. Claude Martin est avec nous également, le négociateur côté européen dans cette négociation pour un accord d'association. Et puis Jean Quatremer qui vient de parler de Libération. Alors jusqu'ici, Monaco a toujours des accords avec la France, mais ça lui suffisait globalement par rapport au marché intérieur sur les questions monétaires et autres. Mais maintenant, plus l'Union européenne se développe, plus Monaco ressent un besoin de se rapprocher de l'Union européenne. C'est comme ça que ça se passe, le marché intérieur?
Bon, ça dépend un peu du point de vue. Je dirais que Monaco a une économie compétitive, mais très petite. Et pour le Monaco, au long terme, avec son business, le marché français est peut-être un peu trop limité. Et c'est quand même le pays qui est autour de 100% du territoire. Donc ça donne aussi un peu un statut international. Et en plus, troisième point, je pense que Monaco veut aussi sortir d'un certain coin de secret bancaire ou d'autres trucs avec cet accord, et c'est pour ça qu'ils le font.
On veut s'ouvrir à la mondialisation. Nous avons rencontré Gilles Tonelli, le conseiller de gouvernement aux relations, en charge des relations extérieures, et le négociateur de Monaco. On l'écoute.
Ce qui est ressenti à Monaco, c'est justement la dissymétrie qui existe entre le fait que Monaco est un pays totalement ouvert et où on accueille tout le monde. 97% des salariés ne sont pas monégasques, tous les produits européens sont accueillis chez nous, alors qu'à l'inverse, et nos produits ont du mal à s'exporter dans certains pays, et nos ressortissants ont du mal à s'installer et à travailler dans notre pays également. Alors, je rappelle que nous, on ne souhaite pas adhérer à l'Union européenne, on souhaite simplement passer à un accord d'association avec l'Union européenne. Donc, nécessairement, on va avoir des adaptations à ces règles que je comprends très bien au sein de l'Union européenne, mais qui nécessairement seront différentes pour un pays qui ne fait que s'associer avec l'Union européenne.
Voilà, après avoir entendu Gilles Tonelli, le négociateur monégasque, la place maintenant au négociateur européen, Claude Martin. C'est édifiant quand même ces chiffres. Monaco, qui est quand même un pays a priori ouvert, 97%, c'est ce qu'on apprend, 97% des salariés dans le privé à Monaco sont étrangers.
Et un tiers des fonctionnaires sont étrangers aussi. Un tiers des 3500 fonctionnaires sont français.
Dans quelle mesure pouvez-vous, dans le cadre de ces négociations, tenir compte de ça ? C'est quand même un cas tout à fait spécifique et à part.
Ça montre déjà que l'économie de Monaco est ouverte et qu'effectivement, elle a besoin de main-d'œuvre qualifiée qui vient de l'extérieur. Alors certainement, l'accord qu'on est en train de négocier, qui comprend les quatre libertés, qui comprendra effectivement aussi la libre circulation des personnes, permettra effectivement aux travailleurs, aux personnes qualifiées venant des 28 pays de l'Union européenne, effectivement, de pouvoir aider au développement économique et échanger, avoir un partenariat avec entre entreprises de différents pays, avec les entreprises de Monaco. Donc ça, c'est un élément important.
On peut pas tout ouvrir. Vous avez bien conscience quand même que c'est un tout petit pays. Si par exemple demain vous avez 3000 avocats européens qui viennent s'installer à Monaco, la profession d'avocat disparaît pour les monégasques. Donc là, il y a un problème, c'est-à-dire que l'ouverture pour un petit pays comme ça ne peut être qu'asymétrique. C'est-à-dire que nous, on peut facilement absorber 3000 monégasques, mais eux, ils peuvent pas absorber facilement 500 millions d'Européens.
Mais c'est le marché qui va déterminer effectivement qu'est-ce qui est nécessaire pour Monaco, pour comment absorber effectivement la demande dont ils ont besoin. Mais il y aura pas un excédent, puisque de toute façon ça sera auto-régulé en fonction du marché même de l'économie monégasque.
Alors, par exemple, excusez-moi, Yann Anthony, je fais votre travail, mais il y a actuellement 34 avocats monégasques. Ces 34 avocats monégasques n'ont pas envie qu'il y ait demain 200 avocats européens qui viennent s'installer. Comment est-ce qu'on va pouvoir régler ce problème? Parce que sinon, les 34 vont se retrouver demain au SMIG, par exemple.
Bon, alors, je ne crois pas que ce soit le cas, parce que effectivement, cette profession d'avocat qui est aujourd'hui est réglementé et qui demande effectivement que les avocats soient inscrits au barreau de Monaco pour pouvoir plaider à la cour. Demain, effectivement, il faudra regarder dans le cadre de notre négociation comment on peut élargir cette fonction dans le cadre de notre négociation avec des procédures qui permettent une transition, qui permettent effectivement à la profession de continuer à prospérer. Donc il y a tout un équilibre à tenir.
Alors, vous êtes prêt à faire des concessions sur la libre circulation?
Certainement. J'ai pas dit qu'on était prêt à faire des concessions sur la libre circulation, mais en tout cas, on va tenir compte de la taille de ce pays pour la négociation.
Alors justement, on a rencontré un avocat monégasque, parce qu'il y a un collectif qui s'est réuni des professions réglementées. Donc on parle des architectes, on parle des avocats.
Des notaires. Vous savez combien il y a de notaires à Monaco ?
Trois. C'est différent.
Il a travaillé.
Ils font pas partie.
Il a travaillé.
De ce collectif. Parce que
d'ailleurs, je vous ai dit une bêtise. C'est pas un tiers des emplois publics qui sont tenus par des étrangers. En fait, c'est deux tiers. Des emplois publics.
Un tiers, ce que vous vouliez dire, c'est qu'un
tiers
ce sont des monégasques. Mais la question qu'on a posée à Maître Zabaldano, qui représente ce collectif, c'est quoi ? C'est que vous, les monégasques, vous voulez le beurre et l'argent du beurre, finalement, dans ce dossier et dans ces négociations. Voici sa réponse.
Non, c'est pas du tout ça. Les monégasques, nous sommes dans une particularité dans le cadre d'un pays qui est unique en Europe et où on dit qu'on veut simplement conserver des équilibres extrêmement subtils. Donc on n'est pas du tout positionné en anti-européen, ça n'est pas vrai. On veut simplement faire attention à ce que nos nationaux aient la possibilité de pouvoir continuer à vivre et à travailler chez eux avec une priorité qui leur est accordée.
Voilà, donc ce qui est important visiblement, c'est la priorité nationale à Monaco qui donne la priorité aux Monégasques pour que les Monégasques puissent travailler et puis ensuite tous les étrangers puissent aussi venir. Ce qui est étonnant aussi quand on s'est baladé dans les rues de Monaco, c'est de voir qu'il y a beaucoup d'immeubles à appartements, mais qu'il y a une industrie qui a des usines, notamment Acepta. C'est un laboratoire qui fait des crèmes, notamment pour Aquiléine, et nous avons rencontré un pharmacien, une pharmacienne en charge du contrôle dans ce laboratoire, et elle nous explique la difficulté de faire partie à la fois de la législation et de devoir appliquer à la fois la législation monégasque et européenne. Elle s'appelle Sonia Jourlet, on l'écoute.
Le problème de la législation européenne par rapport à Monaco, c'est que Monaco ne fait pas officiellement partie de l'Union européenne et de ce fait-là, nous, en tant que fabricants de produits cosmétiques, on doit enregistrer nos produits sur un portail européen et on n'a pas accès, donc on doit avoir forcément un pôle en France qui nous permet d'accéder à ce portail européen, sachant que parallèlement, on a toutes les contraintes de la législation européenne.
Voilà, Sonia Jourlet du laboratoire Acepta, ça c'est votre dossier, Andreas Schwab, c'est pour ça qu'on a besoin de faire partie du marché intérieur.
Absolument, et c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et je dirais qu'il faut bien sûr avoir un processus transitoire pour faire en sorte que les Monégas puissent vivre ce processus, mais à long terme, il n'y a pas la possibilité d'avoir une discrimination de nationalité. Il faut avoir des examens pour les avocats, il faut avoir des structures européennes pour faire en sorte que les ressortissants de tous les États membres de l'Union européenne puissent faire partie de cette structure. Mais bien sûr, il faut avoir un processus transitoire.
Alors justement, sur l'histoire des quatre libertés, c'est très intéressant d'avoir l'avis de Claude Martin, mais d'abord on écoute Serge Tell, le ministre d'État de Monaco.
C'est l'Union européenne qui, comme vous l'avez vu avec le Brexit, est capable de faire tout un tas de contorsions à ses règles de fonctionnement. Si l'Union européenne est capable de prendre en compte, et il le souhaite autant que nous, les spécificités monégasques, alors il y aura un accord.
Ça, c'est intéressant quand même, Claude Martin. En gros, ce qu'explique Serge Tell, c'est qu'en parlant de contorsion, c'est de l'accord européen pour faciliter le travail de David Cameron dans la campagne pour le référendum sur le Brexit. En gros, il dit les quatre libertés, c'est négociable. La liberté d'établissement, c'est négociable.
Moi, je dirais que c'est pas négociable. Parce qu'on a quatre libertés effectivement qui sont là et qui sont là parce que effectivement elles sont essentielles pour le fonctionnement du marché intérieur. Et qu'est-ce qu'on fait avec Monaco? C'est qu'on étend le marché intérieur européen à ce pays-là. Et donc on peut pas introduire une distorsion de concurrence entre les entreprises européennes et celles qui sont à Monaco. On ne peut pas introduire de distorsion entre les citoyens qui travaillent d'un côté ou l'autre de la frontière. Donc en fait,
je pense que
dans une négociation, il faut toujours voir quel est le cadre général de départ dans lequel on s'est engagé. Et le cadre général de départ dans lequel on s'est engagé, c'est celui du marché unique. Et le marché unique a des règles qui sont bien définies. Alors après, effectivement, ce que veut certainement dire le conseiller d'État, c'est que dans le cadre de notre négociation, on tient compte, et ce que je voulais dire tout à l'heure, on tient compte de la déclaration numéro 3 de l'article 8 du traité de l'Union européenne, qui dit effectivement que dans ses relations avec les pays voisins, notamment les pays de petite taille territoriale, l'Union européenne tient compte de cet effet de petite taille territoriale. Ouais. Et donc effectivement, il faudra regarder... dans la négociation, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est avoir une transition vers une nouvelle économie que Monaco est en train de développer. On l'a vu déjà avec l'accord sur la transparence fiscale. Il y aura d'autres outils dans la panoplie des instruments juridiques européens qui permettront à Monaco d'aller de l'avant. Cette histoire de produits pharmaceutiques ou des produits cosmétiques qui ont besoin d'avoir un organisme, une autorité compétente ou un portail en France pour pouvoir être homologués. Et c'est vrai que c'est pas normal. C'est pas normal et ça sera réglé dans le cadre de la négociation avec le... avec les règles du
bon, en tout cas, ce qu'on a bien compris, c'est qu'il y avait une marge de manœuvre, mais que pour vous, les quatre libertés ne sont pas négociables. Ça, c'est le résumé?
Oui.
Bon, très bien. Merci beaucoup, Claude Martel, le négociateur côté européen dans cet accord d'association. Et vous êtes également chef d'unité au SEAE, le Service européen d'action extérieure, la diplomatie européenne. Andreas Schwab, eurodéputé de CDU, Jean Quatremer de Libération, bientôt en poste à Monaco. Vous restez avec nous. On va accueillir Éric Scholl et Maya de la Baume. À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet+. Yann-Anthony Noguès.
Merci de nous retrouver ici à Bruxelles, au Parlement européen, pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens, consacré lors de la première demi-heure à la Principauté de Monaco, qui a entamé, voilà, un certain temps déjà, hein, 18 mois, c'est des négociations pour un accord d'association avec l'Union européenne, mais on a bien compris que ça n'allait pas être si simple que ça. Avec nous, en studio, Andreas Schwab, eurodéputé CDU, qui parle un français impeccable, parce que je crois que vous aviez de la famille du côté de Menton, hein, près de Monaco, c'est ce que vous me disiez pendant la pause.
En vacances, toujours.
En vacances. Jean Quatremer de Libération, toujours en poste à Bruxelles.
Et futur correspondant
et
à
futur
Monaco.
Futur correspondant à Monaco. Monaco. Bonjour, Maya de la Baume de Politico. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Est-ce que les gros câlins de Jean-Claude Juncker pourraient faire l'objet de votre analyse perspicace?
Oui. Et il y a une grande palette de câlins, donc on va les étudier, les explorer les uns après les autres.
Il a un côté bisounours un petit peu.
Totalement.
Jean-Claude Juncker, très bien. Et alors là, attention, mesdames et messieurs, roulement de tambour.
Pour la première fois.
Pour la première fois, exclusivité BFM Business, 500 millions d'Européens ici à Bruxelles. Éric Scholl, directeur de la rédaction de Courrier International, est parmi nous en plateau. Bonjour Éric.
Bonjour Yann-Anthony.
On vous a eu par téléphone, on vous a eu par Skype, maintenant on vous a en vrai, on n'arrête pas le progrès. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Alors, un petit hommage à Umberto Eco, les projets d'Amazon, on va parler aussi des Français si nuls en économie, et puis les Curry Houses en Grande-Bretagne.
Les Français sont nuls en économie?
On verra.
Vous venez nous dire ça sur BFM Business? Éric Scholl? Bon, en tout cas, les coulisses de l'Europe et la revue de presse internationale, demandez le programme de 500 millions d'Européens pour cette deuxième demi-heure pour réagir, #500ME.
BFM Business, avec 500 millions d'Européens, pénétrés dans les coulisses de l'Europe.
Pénétrés dans les coulisses de l'Europe avec Maya de la Baume et Jean-Claude Juncker. Alors comme ça, Jean-Claude Juncker, il fait de la câlinothérapie.
Oui, ça s'appelle le câlin en politique et c'est on peut l'étudier parce qu'il y a plein de il y a une grande palette de choix en fait dans sa manière d'interagir avec les leaders européens et en règle générale Juncker il a décidé comme ça de faire faire des câlins parce que il faut humaniser un peu les institutions européennes parce que finalement c'est rare qu'il y ait des eurocrates comme ça qui se mettent à exprimer un peu leurs sentiments en public.
Ici, c'est nordique. Ouais. Alors, il faut se toucher.
Ouais. Alors là, par exemple, on le voit à l'image avec Angela Merkel qui l'étreint contre lui. Voilà.
Alors, les femmes, en règle générale, c'est le bisou.
Ouais.
Là, c'est la ministre de la Justice suisse.
D'accord. Donald Tusk, la main dans le dos.
En règle générale, c'est pas toujours très câlin, très. C'est plutôt, il y a une petite distance en
et
règle générale. C'est très politique, voilà.
D'accord. Exactement. Politique. Exactement. Là, il est avec Joe Biden.
Avec les Américains, en règle générale, c'est handshake avec un grand éclat de rire comme ça, parce que
d'accord.
Les Américains, ils sont cool.
Là c'était le fameux coup avec le Hongrois, Orban.
Hello, dictator.
Qu'est-ce qu'il avait fait?
Oui, il avait dit « Hello, dictator » à Orban, mais d'une façon assez drôle quand même.
Là, on n'est pas dans la câlinothérapie quand même.
Oui, mais on est dans l'humour, donc
dans l'humour,
c'est pas loin.
Ça veut dire quoi de ce personnage finalement? Il nous rapproche, Jean Quatremer.
Je crois que Maya, elle a parfaitement résumé, c'est-à-dire qu'il humanise. Je pense qu'il a toujours fait comme ça. Moi, c'est Jean-Claude Juncker, je le connais depuis qu'il était ministre des Finances en 1992. Je l'ai rencontré pour la première fois en 92. Et il a une facilité, il tutoie tout le monde, ça très rapidement. Moi, j'avoue, très rapidement, il m'a dit, tu vas me tutoyer. Moi, je suis maire de l'équivalent d'une sous-préfecture française, donc on va pas se vous voyez. Donc déjà, tutoyer un Premier ministre, c'est quand même assez rare pour un journaliste. Hein, c'est pas des... Et c'est vrai qu'il vous prend dans ses bras quand il vous voit. Il est affectueux. Moi, ça ne me dérange pas. Parce
quand
que...
il tutoie ou quand il vous voit
quand il tutoie, et la façon dont il vous prend dans les bras...
Moi, j'ai essayé de faire un jeu de mots.
Il a tendance à... par exemple, moi, il m'étreint quand il me voit, parce qu'on se connaît depuis longtemps, depuis 30 ans. Donc, il me prend dans ses bras et c'est toujours extrêmement surprenant. J'imagine pas une seconde François Hollande me prenant dans ses bras.
Et vous arrivez à faire preuve de détachement quand vous écrivez des articles
sur
Jean-Claude Juncker?
Je l'aime.
Vous avez déjà écrit quelque chose de méchant sur Jean-Claude Juncker récemment?
Plein d'articles méchants, oui. J'ai fait, parce que notamment, j'étais contre le fait qu'il se présente à la présidence de la Commission européenne parce que je considérais qu'il était usé, vieilli, fatigué et qu'il n'en avait pas envie. Il le disait absolument à tout le monde.
Mais ce qui aurait préféré la présidence du Conseil européen.
Voilà. Mais vraiment, je crois que Paya a raison. Il fait le buzz. C'est extraordinaire. On voit un type normal. Regardez Barroso. On a eu pendant 10 ans, moi je l'appelais le Mérou, Barroso, pendant 10 ans un type qui était vraiment, qui était froid, glacial, il n'y avait rien qui passait. L'autre, il passe. Et sur les réseaux sociaux, on voit du Juncker partout, avec un éclat de rire, en train d'embrasser Charles Michel sur la tête, parce qu'il Charles Michel est chauve, hein, donc il l'embrasse comme...
Un peu comme Laurent Blanc avec Fabien Barthez lors de la Coupe du Monde 98. Andreas Schwab.
On joue quand même pas au foot. Je pense que ce qu'on peut retirer de tout cela, c'est que Jean-Claude Juncker a vu son mandat en tant que mandat d'un président de la Commission plus politique.
Voilà.
Ça, c'est positif. Mais de l'autre côté, il faut aussi savoir que dans les médias nationaux, c'est pas toujours comme ça qu'on se tutoie, qu'on se donne des bisous. En Allemagne, ça se fait pas du tout. Et c'est pour ça qu'un certain nombre d'Allemands regardent ça d'un point de vue plutôt critique.
Ah d'accord, en Allemagne,
ça se fait pas chez nous. Et donc,
Vous n'êtes pas bisous en Allemagne.
Non, on se souvient d'ailleurs que Nicolas Sarkozy, après l'une de ses premières rencontres avec Angela Merkel, Angela Merkel avait demandé à son ambassade de contacter l'Élysée, son ambassade à Paris, de contacter Élysée pour dire si à l'avenir Nicolas Sarkozy pouvait arrêter de l'étreindre et de lui mettre la main dans le dos, ça l'arrangerait. Finalement, oui, il y a des différences culturelles comme ça, Maillot de la Beaume.
Non, mais c'est drôle parce que lui, il est luxembourgeois, donc il est un peu peut-être un mélange de la France, de l'Allemagne, donc c'est une bonne... C'est un bon compromis, finalement.
Éric Scholl.
Il y en a un qui savait bien faire ça, c'était Jacques Chirac, finalement. Il avait ce même contact, je dirais, moins poussé, sans doute, et finalement moins gênant que ceux de Nicolas Sarkozy. Mais il avait ce contact assez facile avec les autres, avec tous ses pairs européens.
Ses homologues.
Je pense que c'est une bonne stratégie aussi, et c'est intelligent d'agir un peu comme un père, un peu. L'aspect paternaliste, je pense, c'est important. Parce que Juncker, c'est un peu le papa. Non.
D'accord. Juncker, c'est un peu le papa. Maya de la Beaume.
Il faut voir que la chancelière Angela Merkel, qui en plus elle vient de l'Est, fille d'un pasteur protestant, et les protestants, c'est vrai qu'ils aiment pas le contact physique. Cela dit, elle s'y était faite à son Nicolas Sarkozy. Et donc elle avait demandé notamment, mais c'est une légende urbaine, mais que j'adore, à voir ce qu'on lui projette tous les films de Louis de Funès pour comprendre quel était
son mari. C'est son mari qui, au moment où elle avait des difficultés dans sa vie de couple professionnelle avec Nicolas Sarkozy, qui lui avait dit « Écoute, Mouti, moi je vais te montrer et tu vas comprendre qui est Nicolas Sarkozy en regardant les films de Louis de Funès. » Et effectivement, elle a mieux compris après.
Moi, je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, c'est une bonne spéculation.
C'est magnifique. Parce que c'est vrai que Louis de Funès et Nicolas Sarkozy, dans l'agitation, ils sont quand même assez proches.
Voilà, bon ben merci Maya de la Beaume pour ces quelques clichés. Désolé pour nos auditeurs en radio. Et ben voilà, il faut nous regarder en télé sur BFM Business TV. Surtout, vous pouvez profiter de ce magnifique studio ici en plein cœur du Parlement européen. Je salue au passage les équipes ici qui font un travail remarquable. Tout de suite, la revue de presse européenne.
BFM Business, 500 millions d'Européens, la revue de presse.
Avec le pétillant Éric Scholl, venu ici en force dans la capitale européenne où le ton monte décidément. Partons pour l'Italie où vous souhaitez nous parler des couillons d'Umberto Eco ou comment Umberto Eco envisageait sa mort. C'était à lire dans l'Espresso.
Oui, l'Espresso lui a rendu un hommage en republiant une lettre qu'il avait publiée en 97. Et c'est un texte vraiment très drôle et finalement une sorte de philosophie de la vie. Ou de la mort, puisque Umberto Eco expliquait comment il se préparait à la mort. Il expliquait tout simplement que la seule façon de s'y préparer est de se convaincre que tous les autres sont des couillons. Voilà, c'est ça. Donc c'est assez facile. À partir du moment où les autres sont les couillons, on n'a plus grand-chose à faire sur cette terre. Simplement, attention, il faut quand même s'y préparer. Et il disait bien, il faut prendre son temps, car un genou qui s'en convaincrait trop prestement ne parviendrait jamais à la sagesse. Alors le truc, donc, c'est de s'y préparer, d'y aller progressivement. Donc, vers 40 ans, on a les premiers doutes. Entre 50 et 60, on amorce la révision. Et on atteint la certitude, quand on a rejoint les 100 ans, la certitude que les autres sont des couillons. Voilà, c'est un très beau texte.
Et c'est pas bien les couillons ?
Les crétins, moi je dirais.
Les crétins ?
Qu'est-ce
qu'on veut dire par les couillons ?
C'est couillon et crétin, c'est pareil. Mais c'est vrai que le couillon, c'est marrant parce que crétin est encore employé aujourd'hui. Couillon, c'est de moins en moins employé. C'est amusant.
Mais c'est parce qu'en italien, c'était couillone.
Couillone.
Couillone, peut-être. Voilà. Non, je sais pas. J'en sais rien. Je viens de dire peut-être des insanités à la radio et à la télévision.
Je trouve.
André Schwab.
Il faut quand même pas sous-estimer le rôle qu'Umberto Eco a joué dans la société italienne, un grand intellectuel qui a aussi eu de pensées très fines sur l'Europe et sur la solidarité, surtout en Europe. Malheureusement, on n'a peut-être pas assez obéi. Il a été toujours très fort de dire que l'Europe doit être solidaire.
Ouais. Et il a dit une chose aussi qui est merveilleuse, surtout à l'heure du tout anglais et de l'anglomanie qui règne ici à Bruxelles. Il a dit que la langue de l'Europe, c'est la traduction. Et ça, la Commission... pas le Parlement, mais la Commission l'oublie un peu trop.
Voilà, et du coup, l'Europe qui souffre d'un manque de solidarité parce qu'elle est pleine de couillons. Direction l'Allemagne, Amazon, Eric a une nouvelle idée pour se débarrasser de la Poste.
Exactement, de la Poste. C'est un scoop qui a sorti il y a quelques jours, la Süddeutsche Zeitung, et qui explique très bien que, l'Allemagne, Amazon a un projet en Allemagne, en France aussi, pour créer des réseaux de colis, en fait, hein, si vous voulez, pour aller chercher ces colis, des réseaux de relais privés où vous avez des consignes automatiques où vous pouvez déposer, prendre votre colis, truc assez simple.
Ah,
et comment la Süddeutsche Zeitung a découvert ça? À travers des annonces d'emploi que en train de faire Amazon, parce qu'elle va recruter
des machines.
Elle va recruter pour ces consignes qui ne seront pas toutes automatiques. Et donc l'idée, c'est que finalement, c'est ce que dit le journal allemand, c'est que Amazon pourrait muter du client fidèle au concurrent dangereux de la Poste. Comme quoi ?
Ça inspire qui ? Jean Quatremer.
Mais c'est intéressant.
Toujours inspiré.
C'est intéressant parce que moi, je suis un utilisateur d'Amazon. Le problème de la Poste, c'est que si vous n'êtes pas chez vous, pour récupérer votre paquet, c'est la croix et la bannière. C'est-à-dire que quelqu'un passe, généralement la journée, vous n'êtes jamais chez vous la journée, vous êtes d'accord ? Enfin, à part vous.
Jusqu'à 11h30. Et vous ne faites pas déposer ça quelque part ?
Alors, il y a la possibilité de le faire déposer, le problème c'est...
Oui, dans un bureau de tabac à côté.
Dans un bureau de tabac à côté, mais en règle générale, moi je préfère le faire déposer chez moi. Bon, alors maintenant je le fais déposer au bureau de mon épouse, où là il y a un secrétariat qui est assuré.
On saura tout.
Aux heures d'ouverture. Mais simplement, la Poste, c'est exactement comme les horaires d'ouverture des magasins, c'est pour un autre monde. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne peut pas s'absenter de son travail pendant 10 minutes, 20 minutes pour aller récupérer ce paquet, etc. Mais il faut que ça soit décalé. La Poste est en train de se suicider elle-même.
C'est l'ubérisation de la Poste qui est en route.
La Poste en Allemagne, au moins, je ne sais pas si l'article en parle, la Poste en Allemagne a déjà ces systèmes aussi. Ils ont aussi déjà préparé le même système. Je ne sais pas si ça existe en France, mais ce n'est pas un nouveau système. Amazon ne veut pas être dépendant de la Poste.
Poste qui était partenaire d'Amazon en règle générale va sans doute devenir un concurrent à un moment
donné. C'est ce que croit deviner le journal.
Direction maintenant la Suisse où ils se moquent des Français.
Oui, les Français nuls en économie, c'est un grand édito dans Le Temps et c'est assez intéressant parce que pourquoi en fait cette si mauvaise connaissance de l'économie des Français, c'est parce qu'ils n'ont pas les bons ouvrages. Et au fond, l'éditorialiste nous explique que alors que les États-Unis et le monde anglo-saxon en général restent une formidable machine à réfléchir sur le marché, l'innovation, la finance, eh bien nous n'en avons nous que des bribes. Pourquoi ? Alors qu'est-ce qu'on a ? Eh bien on a, excusez du peu quand même, on a du Joseph Stiglitz, on a du Jeremy Rifkin, des auteurs certes intéressants, explique l'éditorialiste, mais classés à gauche et qui ne pèsent pas lourd dans le débat global. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'économistes dont on ne voit jamais la couleur, ou plutôt les traductions en France, parce qu'ils n'intéressent pas nécessairement les éditeurs, et puis les lecteurs et les lecteurs.
Ça, c'est un petit clin d'œil pour français. Emmanuel Le Chypre, qui présente la librairie de l'Écho sur BFM Business. Ça m'intéressera d'avoir son avis là-dessus, Maya Delabaume.
C'est intéressant parce que justement, Piketty, lui, il est traduit dans une grande majorité des langues hors de, enfin en français aussi, alors que nous on n'a pas des certains auteurs, Friedman, Galbraith, des types comme ça, on les a pas traduits, donc c'est marrant, on est chauvin en fait.
Thomas Piketty, il y avait du boulot. Thomas Piketty qui avait été notre invité dans cette émission il y a quelques mois, il était arrivé avec son bouquin qui fait 3,5 kg. Andréa Schwab, les Allemands, alors. Je suis tenté de vous demander si vous pensez, vous aussi, que les Français sont nuls en économie.
Non, pas du tout. Mais c'est vrai que le débat franco-français, il est très national. Et ça, malheureusement, peut-être ça fait oublier quelquefois aussi des ouvrages importants extérieurs. Mais je dirais, c'est un peu similaire dans les autres États membres qui ne parlent pas la langue anglaise.
Mais est-ce que les Allemands sont bons en économie ?
Ça dépend comment vous définissez l'économie. Si vous regardez l'investissement, non. Si vous regardez l'approche à la globalisation, oui, mais qu'est-ce qu'ils sont les Allemands ?
Ils comprennent la mondialisation, les Allemands. Les enjeux de la mondialisation.
Non, je pense l'économie allemande veut s'y mettre à la globalisation, mais c'est aussi un risque. C'est toujours dangereux si on généralise. Ça n'existe pas les Français ni les Allemands.
Et l'intéressant, c'est qu'en Allemagne, vous avez quand même des quotidiens et des mensuels, des hebdomadaires économiques qui traitent de l'économie. Chez nous, pas. Je veux dire, les hebdomadaires français, alors Le Point le fait davantage, traite de l'économie, mais généralement, les unes des hebdomadaires français, c'est quoi ? C'est le classement des hôpitaux, c'est les meilleurs traitements pour le mal au dos, c'est des choses comme ça.
L'immobilier.
Voilà.
Les francs-maçons.
Les francs-maçons.
Voilà. Absolument. Les francs-maçons, ça revient tout le temps. Et on n'a pas l'équivalent de The Economist, on n'a pas l'équivalent de Financial Times, on n'a pas l'équivalent de ces grandes bibles dans lesquelles viennent débattre tous les intellectuels du monde.
J'aimerais bien avoir l'avis de l'ancien rédacteur en chef de La Tribune qui est sur ce plateau, Éric Scholl.
Il existe un courrier international qui permet justement de reprendre ces articles de la presse étrangère, notamment les articles économiques.
Le courrier international, c'est plutôt un truc d'avoir ce point de vue international, non ? C'est moins économique.
Il y a aussi de l'économie dedans, oui. Bien sûr, et on souhaite le développer pour cette raison précisément.
Et par exemple, dans La Tribune, c'est vrai aussi, lorsque La Tribune, il se fait par des journalistes français. Les journalistes français, à 90%, ils sont de gauche, avec une vision de l'économie où c'est l'État qui doit
intégrer. 90%, vous exagérez.
99.
95.
Ouais. C'est peut-être ça. Et qui ont une vision de l'économie où c'est l'État qui est le bien absolu et le marché le mal absolu. Globalement, c'est ça. Et vous avez des éditorialistes plutôt libéraux, mais très peu en réalité. Et donc, le débat français est totalement tronqué. Moi, c'est quelque chose qui me fascine. C'est-à-dire, moi qui ne suis pas un ultra-libéral, parce que j'ose parfois critiquer l'intervention de l'État dans l'économie, je suis considéré en France comme un ultra-libéral. Je veux dire, c'est assez étonnant. Et pour un anglo-saxon, quand il regarde le débat français, il ne comprend même pas ce qu'on raconte. C'est incompréhensible.
Très bien. Maintenant, on va parler de Indian food avec Éric Scholl, avec le business des curry houses. Des maisons de curry.
Oui, alors c'est une enquête qui est passionnante. Sortie par un journal libéral, le Financial Times, une grande enquête sur ces institutions, hein. En fait, c'est ces restaurants, ces petits restos indiens qu'on trouve partout en Grande-Bretagne. Il y en a plus de 12 000. Il faut juste se rendre compte que ça fait vivre 100 000 personnes. C'est 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Eh bien, ils vont très mal, ces petits restaurants. Pourquoi ? Pour plein de raisons, des raisons qui rejoignent l'actualité. Par exemple, les épices qui sont importées, eh bien, subissent la baisse de la livre. Le prix des épices a doublé en l'espace de quelques années. Donc, le coût de ces repas est en train
de monter. La livre d'épices est beaucoup plus chère.
Vous savez bien que quand on va au curry house, c'est pour avoir un repas bon marché. Deuxième chose, c'est que les Anglais sont maintenant de plus en plus tentés aussi par d'autres cuisines tout aussi exotiques. Ça peut être la cuisine vietnamienne, mais aussi la poutine québécoise, voyez. Donc tout
la
un tas.
Poutine, c'est horrible. Québécoise.
Oui, ça, je suis bien d'accord.
Bon. Est-ce que c'est la poutine ?
Non, j'ai jamais.
Ah, c'est des plats de
sorte de frites avec du fromage fondu dessus. Mais vous mangez ça, c'est 25 kilos d'un coup, quoi.
Voilà.
Donc il faut sauver.
Poutine est indigeste, selon Jean Quatremer ici dans sa
sortie.
Ni de Russe. Merci beaucoup, Andréa Schwab, eurodéputé de CDU, d'avoir été avec nous, grand spécialiste du marché intérieur. Merci beaucoup, Éric Scholl, d'avoir été patron de la rédaction de Courrier International, notre partenaire, d'être venu jusqu'à Bruxelles aujourd'hui pour faire votre revue de presse. Merci, Maya de la Baume de Politico. Merci d'avoir traversé la rue pour être venu nous voir et nous parler des gros câlins de papa Juncker. Et puis, merci, Quatremer. On se voit la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 500 millions d'euros. Même jour, même heure. D'ici là, bonne fin de week-end à tous. À l'écoute, évidemment, de BFM Business.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs.